Somnifère, le podcast.
Somnifère, c'est un podcast en deux parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somniferelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit.
Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer.
Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 6 décembre et Somnifère vous raconte ce soir les tourments de Marthe Verrès, une femme veuve tombée amoureuse d'un autre homme et qui se décide à lire le journal intime de son mari 2 ans après sa mort, tout anxieuse des secrets qu'elle risque de déterrer. C'est une nouvelle de Savinien Mérédac intitulée « Le message ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation.
La séance de relaxation.
Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise et lorsque vous êtes prêt, prenez une grande inspiration, lente et profonde, gonflez vos poumons, retenez l'air un instant et expirez par la bouche. À nouveau, prenez une grande inspiration, gonflez votre ventre cette fois, retenez l'air un instant et expirez par la bouche, à votre rythme. Laissez votre respiration aller et venir, se calmer, tout en l'observant. Ressentez comme votre corps s'enfonce dans le matelas de plus en plus, petit à petit, vous laissant dans un état de détente profonde. Continuez de respirer lentement par le nez et d'expirer à votre rythme. Concentrez-vous simplement sur le va-et-vient de votre respiration. Portez votre attention sur le point entre vos deux sourcils qui se détend, de même que votre front, votre mâchoire, et votre tête qui devient de plus en plus lourde sur votre oreiller. Prenez une grande inspiration et relâchez complètement vos épaules à l'expire. Laissez s'installer un profond sentiment de calme et de sérénité. Imaginez maintenant les contours d'une rivière. Il fait frais, mais beau, et vous êtes installé à l'ombre, sous un arbre, tout près de l'eau. Nous sommes en automne, mais la température est agréable, et vous êtes chaudement vêtu. Prenez un moment pour dessiner la scène du mieux que vous pouvez. Les habits que vous portez, la nature environnante, la cime des arbres, l'odeur des feuilles sur le sol, le bruit des oiseaux alentour, le petit nuage qui se forme devant votre bouche lorsque vous expirez. Imaginez la scène avec le plus de détails possible et mettez-y votre touche personnelle. Ajoutez-y tout ce que vous souhaitez y voir. À présent, prenez un moment pour réunir tout ce qui vous tracasse, toutes vos émotions indésirables, tout ce dont vous souhaitez vous débarrasser, et rassemblez-les dans un petit sac en toile qui se trouve près de vous. Jetez maintenant le sac de toile dans la rivière qui s'occupera de recycler toutes ces émotions. Et regardez-le s'éloigner au loin, emporté par le courant. Vous ressentez une douce brise et la douceur tiède du soleil d'automne vous caresse le visage. Laissez votre ventre se gonfler légèrement à l'inspiration, puis expirez lentement par la bouche. Emplissez-vous de calme et de sérénité. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche, à votre rythme. À présent, concentrez simplement votre attention sur l'air qui entre et sort de vos narines. Si des pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les passer et recentrez votre attention sur votre respiration. Vous êtes calme et détendu.
L'histoire du soir.
Madame Vérès referma le tiroir. Le cahier était là, devant elle, large, épais, le carton brun de la couverture usé au bord, arrondi au coin, la toile de la reliure un peu lâche, telle une charnière qui a pris du jeu. Machinalement, l'index de la main droite soulevait cette couverture, la laissait retomber comme un volet qu'on hésite à ouvrir. Et Marthe Vérès songeait. Elle songeait, le front emprisonné dans la main gauche, une mèche grise débordant en écharpe sur des doigts trop pâles. Le journal de son mari. Pourquoi Maurice avait-il commencé de le tenir quelques années avant sa mort? Quel secret trop lourd lui confiait-il donc? Ah, ce cahier triste et froid, Marthe retrouve à le regarder aujourd'hui sa rancune des jours passés. Il fut peut-être son seul ennemi, l'occasion des seuls nuages, des seuls qui comptent, des seuls dont on se souvienne, au long de ces 23 années d'intimité si étroite et si chaude. Jamais Maurice ne lui avait dit « tiens, lis. » Et elle n'aurait point touché, dû sa vie en dépendre, au livre trop intime sans doute qu'on ne lui avait pas ouvert. Certes, souvent il laissait le cahier à portée de sa main. Parfois même, il l'avait poussé vers elle comme pour provoquer une question, une demande. Ni question, ni demande ne vinrent jamais. Peut-être les attendait-il avec un désir passionné de livrer à l'aimé le trésor caché, le plus intime de son intime pensée. Peut-être, c'est comme ça la vie, des petites susceptibilités, des petites pudeurs qui nous retiennent, et l'on se fait souffrir bêtement, inutilement. C'est comme ça, il faut que ce soit comme ça. Du cahier, elle levait les yeux jusqu'au cadre de bois brun posé sur le bureau. Oui, c'était bien sa bouche tendre aux lèvres un peu sensuelles, son menton délicat presque féminin, ses yeux de rêve et de bonté. C'était bien lui, mais impénétrable, mais distant déjà. Et voilà qu'après 2 ans, elle venait ce matin demander au mort de lui parler, de la soutenir, de la conforter. L'index continuait de tourmenter le volet de carton. Mon Dieu, cette fuite vers lui, cette imploration de son secours, n'était-ce pas la preuve même que dans son cœur, elle l'avait déjà presque trahi? Une rosée de larmes naissantes mouilla ses cils, et dans l'irisation de ce voile liquide et léger, un visage doucement apparaissait s'interposer entre le cadre et ses yeux. Un visage jeune, un peu douloureux, un peu naïf, presque tragique par son expression d'humble adoration. Elle voulut repousser la vision, machinalement elle abaissa ses regards vers ses mains. Elle aperçut les liserés de crêpe à ses poignets et s'en trouva surprise comme si jamais elle ne les avait vus. Soudain, ses vêtements noirs lui faisaient horreur, non point qu'elle cessât d'en aimer l'austérité, mais parce que tout d'un coup, elle avait perçu la discordance entre cette tenue de deuil et la joie nouvelle, la petite joie, la joie frêle qui levait dans son âme. Elle était choquée, blessée, comme d'une simulation indigne d'elle. Alors, c'était donc vrai? Elle s'étreignit la tête à deux mains. Claude. Claude, ce gamin qui veut l'épouser, ce gamin de 24 ans, l'âge qu'aurait eu son fils s'il avait réussi à vivre. Elle l'aime tout simplement, pleinement. Elle l'aime, pour un peu elle le crierait. Le ridicule, est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte pour elle? Ah, comme elle l'aime pourtant. Ce matin, pour la première fois, elle ose regarder en elle-même tout au fond, et les voiles tombent, et une rougeur lui monte au front, comme à voir son âme même se dévêtir peu à peu. Dans une honte délicieuse et poignante, Marthe Verrès connaît enfin que sa chair de veuve, sa chair qui se souvient, sa chair fervente, sent le poids de la solitude et le froid des nuits sans caresse. De toute l'énergie tendue de sa raison, elle a repoussé Claude. Et ce matin, elle a reçu sa lettre de supplication et de folie. Il implore une dernière entrevue. Il veut la convaincre, la conquérir, conquérir leur bonheur. Elle sent bien que, s'il revient, elle sera sans force. Et c'est à Maurice qu'elle est accourue demander le courage du refus définitif. Maurice, c'est lui qu'elle appelait, et c'est l'autre que sa fièvre a tout de suite évoqué. Ne sommes-nous donc que trahison et que fragilité? Oublie-t-on près d'un quart de siècle du bonheur le plus doux, de la tendresse la plus attentive et la plus délicate et la plus dévouée? Oublie-t-on les heures d'exaltation vécues côte à côte, cœur à cœur, ni les jours sombres où l'on s'appuyait l'un à l'autre, mais que tout cela est loin? Maurice, elle le chérit au fond de son cœur d'une tendresse comme surnaturelle, que rien ne pourrait lui arracher sans la faire mourir. Elle repousserait avec horreur une existence d'où le souvenir du bien-aimé disparu dût être banni. Et cependant, l'autre, quel mystère que notre cœur ! Si on lui avait prédit ces choses à Marthe, autrefois, elle ne les aurait pas crues possibles. Elle se serait indignée, elle se serait révoltée. Mystère et ténèbres de notre cœur. Sans y prendre garde, elle s'était mise à feuilleter le journal. Mais le regard absent, elle ne lisait pas. Et si, dans ce méchant cahier, elle allait découvrir des choses qui lui donnassent le droit d'être infidèle. Qui sait ? Elle se sentit rougir. C'était donc cela qu'elle cherchait ? Un prétexte, une excuse à sa trahison ? Car tout d'un coup, elle avait eu conscience que la trahison était en elle, non plus à l'état virtuel, mais comme une réalité, une atroce réalité, accomplie, irrémédiable. Elle se souvint de sa crainte pendant les premiers temps de son veuvage, à entrouvrir ce même cahier. Pourquoi ? C'est qu'elle avait tremblé pour son cher bonheur passé. Aujourd'hui, elle n'avait plus peur, hélas. Madame Verrès venait d'apercevoir au fond, tout au fond d'elle-même, cette laide petite bête que chacun de nous porte lovée au plus intime de son être, et qu'au cours de sa vie normale, il ne voit pas, qu'il ne veut pas voir, qu'il ne connaît pas. La bête avait remué un peu trop fort. Impossible d'ignorer qu'elle fût là. Et pourtant, c'était en toute bonne foi que Marthe était venue demander à son mari force, courage et conseil. Elle eut un geste pour jeter le cahier au fond du tiroir. Mais non, maintenant, il lui fallait savoir. Elle ne pouvait plus vivre avec ce soupçon désormais trop précisé qui empoisonnerait son passé mort mais embaumé. Elle avait repris le livre. Elle en tournait les feuillets sans plus songer à lire mais ne se pouvant détacher de la fascination du mystère contenu là. Soudain, entre les pages, elle remarqua un papier gris-bleu, plié comme une lettre. Elle le prit, une lettre en effet. Elle regarda la date, 3 mois avant la mort de Maurice. Elle lut. Ma chérie, un coup au cœur. Mais elle ne sut pas tout de suite si c'était une grande douleur ou une petite joie. Existait-il donc une autre femme qu'il pût appeler ainsi ? Elle recommença. Ma chérie, je te regardais ce matin, accoudé au bureau, le front dans la main et déferlant sur tes doigts cette mèche rebelle, dont la cajou s'éclaire à peine de quelques fils d'argent. Avec l'émotion que depuis 23 ans je n'ai jamais cessé d'éprouver au spectacle de ta beauté, j'admirais dans sa plénitude, sans lourdeur, l'ovale parfait de ton visage demeuré si jeune, et mes yeux s'attachaient à l'arc de tes lèvres dont le léger abaissement vers les coins donne à ton sourire une telle tristesse, même lorsque tu es joyeuse. À te contempler ainsi, une grande tristesse m'est venue, mais revenue plutôt, car je l'ai chassée déjà 10 fois sans m'en pouvoir affranchir. Je te sens si fragile, ma chérie, si merveilleusement disposée pour souffrir de la vie. Et voici que m'oppresse cette pensée que je pourrais mourir avant toi. Quand deux êtres se sont aimés comme nous nous sommes aimés, la survie doit être un horrible supplice. Pour moi-même, j'y ai souvent médité avec terreur. Mais lorsque j'y songe pour toi, ma bien-aimée, cette vision m'est une vision d'agonie. Le vide soudain et le noir, le point d'appui qui vous manque, la transfiguration instantanée et presque incompréhensible de votre vie, tout cela doit être atroce. Et plus douloureux encore, le réveil, le retour à la pleine conscience après l'abattement physique des premières heures, après le morne vertige des journées funérailles. Mais ce n'est pas le pire. La souffrance suprême, ma chérie, c'est, pour une âme entière et passionnée comme la tienne, d'assister à la mort lente du souvenir. Le souvenir qui meurt, c'est l'aimer qui nous quitte une seconde fois. Et cela, c'est en même temps que la souffrance suprême, la souffrance inévitable. Ah, je sais bien, si tu lis cette lettre peu de jours après ma mort, tu te récrieras, tu protesteras de toute l'énergie de ta douleur encore saignante, et peut-être les paroles de sagesse que j'écris ici te blesseront-elles. Pardonne-moi, s'il en est ainsi, mais il faut que tu entendes le langage de la raison qui ne s'oppose pas, crois-le bien, au langage de ma tendresse. En te parlant comme je te parle, je n'oublie rien de ce que fut notre amour. Je ne le déprise pas non plus, je me garde seulement d'oublier que nous sommes humains, assujettis aux infirmités de l'humaine nature. Rien d'éternel en nous, ma pauvre chérie, et tu le sais bien si tu veux t'astreindre à réfléchir au lieu de t'abandonner aux rêves et aux larmes. Des semaines, des mois, des années passeront, et rien, rien au monde ne pourra t'épargner la torture de voir s'éloigner, s'estomper, s'effacer le cher souvenir. Le souvenir demeurera, mais un souvenir comme immatériel, un souvenir dont on ne souffre plus si fort qu'on le veuille. La cicatrice, mais plus la blessure. Le souvenir nous reste, seule la douleur est morte, cette douleur qui faisait notre orgueil, cette douleur à quoi nous nous attachions de toute notre force et qui a fui entre nos doigts. Peut-on retenir une ombre? Parce que tu ne souffriras plus, ne te crois pas infidèle. Ma chérie, ne plus souffrir, s'habituer, s'accommoder à son deuil, s'y installer, c'est simplement subir la destinée humaine. Une à une, lentement, les larmes naissaient aux paupières de Marthe Vérès, et son petit mouchoir bordé de noir les essuyait avant qu'elles aient eu le temps de rouler le long de ses joues. Comme sa tendresse fut prévoyante, songeait-elle, et quelle bonté, quelle douceur a d'avance me pardonner. À me pardonner? Mais non, il ne saurait être question de pardon, à me comprendre d'avance et à me consoler. Elle poursuivit. Quand cet apaisement te sera venu, il faudra songer à refaire ta vie. Les morts ne doivent pas gêner les vivants. Tu es une assoiffée de tendresse. Tu ne comptes point parmi celles qui sont faites pour vivre seules. Je le sais par une très longue et très constante et très amoureuse étude. De plus, ton extrême fragilité, cette aptitude à souffrir de tout et si cruellement, me font une grande peur. Je t'en supplie, ma chérie, ne te laisse arrêter ni par de vains scrupules, des fantômes de scrupules, ni par un absurde respect humain. La seule vie possible pour toi est une vie de tendresse. Les larmes de Marthe Vérès coulaient maintenant sans retenue. Ah, le cher, cher absent! Elle était venue lui demander le courage de la résistance, et voici qu'il lui prêchait abandon. Elle se calma un peu et continua. Un danger, toutefois, te menace et je dois récarter de ta route. Ce danger, il naît de la pente même de ton tempérament et du besoin que j'ai toujours discerné en toi de protéger plutôt que d'être protégé. Tu es une maternelle, refoulement peut-être de la tendresse que tu n'as pas pu dépenser pour notre pauvre petit Georges. Déviation, transformation ou infiltration, partout d'un instinct trop puissant pour s'éteindre en même temps que s'éteignait en toi tout espoir de maternité. Je ne sais pas, mais je sais qu'il t'est impérieusement nécessaire de t'apitoyer, de câliner, de bercer. Oui, et si nous fûmes si pleinement heureux, peut-être est-ce en partie à cause de la naturelle faiblesse qui justement me porte à me laisser défendre, à me laisser bercer. Maternelle, garde-toi des hommes trop jeunes. Le premier enfant venu, pour peu qu'il soit tendre et malheureux, te prendrait facilement le cœur avant même que tu le saches. Entre ses dents, Madame Vérès déchira son mouchoir auquel les larmes avaient donné un goût de sel. Elle reprit après un temps. Cela, ma chérie, il ne le faut pas. Si la tentation te venait jamais de commettre cette folie, ne songe pas seulement à l'immédiat présent, pense à l'avenir, tout proche. Le présent, ce serait peut-être un ridicule par-dessus lequel on est résolu de sauter à pieds joints. Ce serait sûrement de volupté profonde d'apprivoiser ce jeune être fougueux, de l'initier à la vraie tendresse la plus tendre et la plus savante qu'ignorent les hommes trop jeunes. Mais demain, mais dans un an, dans 5 ans, imagines-tu, chérie, la torture de la femme vieillie, délaissée peut-être ou bien tolérée par pitié, la vieille femme, boulée dérisoire de la fringante jeunesse, condamnée aux galères conjugales. Madame Verrès ne pleurait plus. Un petit tremblement agitait ses lèvres. Elle cessa de lire, remit la lettre dans le journal qu'elle jeta au fond du tiroir. Elle ouvrit un secrétaire, y choisit une carte discrètement endeuillée, une enveloppe. Pendant des minutes, elle tint le Bristol par les coins opposés, entre deux doigts, et d'un petit mouvement très lent, elle le laissait pivoter dans un sens puis dans l'autre. Elle suivait, abstraite, le manège d'un oiseau blanc qui, sous la fenêtre ouverte, échenillait un rosier. Il sautillait de branche en branche, léger et insoucieux. Il leva le bec, la regarda de ses gros yeux cerclés d'olive, s'ébroua et partit dans un froufroutis d'ailes ponctué de petits cris. Marthe Verrès posa le carton à plat sur son buvard. La plume au doigt, elle se mit à le regarder fixement comme si déjà elle y pouvait lire les mots qu'elle allait tracer tout à l'heure, les quelques mots où tiendrait en puissance toute sa destinée. Elle eut peur. Il lui semblait inacceptable, hallucinant, que ces signes dont on se sert tous les jours, que ces mêmes paroles que l'on prononce en 1000 circonstances diverses, puissent tout d'un coup grouper d'une certaine façon, dites dans une conjoncture spéciale, acquérir ce pouvoir énorme, presque maléfique. Elle repoussa un peu la carte, atteignit l'enveloppe et y mit l'adresse. Claude. Claude Esmond. Cela prenait si peu de place dans l'encadrement noir. Et pourtant, est-ce que cela ne suffirait pas à remplir toute sa vie? Un souffle fit trembler les feuilles, porta jusqu'au bureau l'haleine des roses mûrissantes. Puis en une chaude bouffée, ce fut tout le jardin somptueux, frémissant, ivre d'été. Marthe Verrès l'accueillit, les narines en émoi, les yeux mi-clos. Et sur le Bristol, sa main, une main de somnambule, traça un seul mot. Venez.
Bonne nuit. Bonne nuit.